VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, deuil national de 3 jours et manifestation de colère après l'attaque des camps de Boulkessi et de Mondoro.
Au Maroc, manifestation à Rabat pour réclamer la libération immédiate de la journaliste Hajar Raissouni, condamnée pour avortement illégal et sexe hors mariage.
Le président nigérian Buhari doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue Cyril Ramaphosa après la récente vague de violences xénophobes en Afrique du Sud.
L'affaire ukrainienne, le président américain Donald Trump exprime sa colère contre le candidat démocrate Joe Biden, les journalistes et les élus démocrates.
En Irak, couvre-feu à Bagdad après 2 journées de contestation qui ont fait 9 morts dans le pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré un deuil national de 3 jours à compter de jeudi à 0h, manifestation de colère hier devant le camp Para de Djikoroni à Bamako et le camp de garde sur la route de Kati. Ces manifestations font suite à l'attaque des camps de Boulkessi et de Mondoro. Les épouses et les enfants des bérets rouges demandent au gouvernement de leur dire la vérité sur le nombre de morts. Ils exigent aussi une clarification sur les 78 soldats disparus. De Bamako, Kassim Traoré.
C'est de façon spontanée que les épouses et les enfants des militaires bérets rouges sont sortis de leur camp de Djikoroni Para pour barrer les routes et brûler les pneus sur la voie. C'est à cause de la tristesse que nous sommes sortis. Nous avons appris que les militaires qui sont à Boulkessi ont été attaqués, alors qu'il n'y a que des bérets rouges. 25 morts et plus de 60 disparus. On veut des explications de la part de nos autorités. Il y a une seconde manifestation à Koulouba, devant les camps militaires situés sur la route qui mène à Kati. On veut le vrai bilan, pas autre chose, scandale les manifestants au niveau de ces camps.
Ce n'est pas seulement eux au sol qui peuvent combattre les terroristes. C'est un travail de complémentarité. Si l'armée de l'air n'a pas bougé, c'est difficile pour les bureaux rouges d'accomplir leur mission. Nous voulons savoir où sont partis nos maris, nos enfants, que l'État nous donne des explications.
Ce que nous voulons est simple, des moyens pour les militaires et les nouvelles de nos parents, conclut Mariam Touré, une étudiante revenant de l'école Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, des centaines de partisans de Jacques Mangoua, arrêtés pour détention illégale de munitions de guerre, ont bloqué hier plusieurs routes pour demander sa libération. Ils ont barré les routes autour de Botro et de Langui-Bonou, dans la région de Boaké. Jacques Mangoua est l'un des vice-présidents du PDCI, ancien partenaire de la coalition au pouvoir, devenu le principal parti d'opposition.
Au Rwanda, un tribunal militaire a inculpé hier 25 hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe rebelle pour avoir tenté de renverser le gouvernement et comploté avec un pays étranger. Les accusés appartiendraient tous au Congrès national rwandais, un parti d'opposition en exil formé par d'anciens proches du président rwandais Paul Kagame. Kigali les accuse d'avoir créé un groupe armé pour mener des attaques au Rwanda depuis la République démocratique du Congo. Les suspects en cours une peine de prison allant de 25 ans à la perpétuité.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a entamé hier soir une visite d'État en Afrique du Sud, où il doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue Cyril Ramaphosa. Il s'agit d'un déplacement exceptionnel visant à apaiser les vives tensions entre les deux premières puissances économiques du continent, après les violences xénophobes du mois dernier dans les régions de Johannesburg et de Pretoria. Des centaines de commerces et de biens appartenant à des étrangers ont été incendiés et saccagés, suscitant l'indignation et la colère au Nigeria, où des centaines de migrants économiques ont été rapatriés ces dernières semaines.
En Algérie, l'opposant Karim Tabou, figure du mouvement de contestation, incarcéré la semaine dernière, a été maintenu mercredi en détention provisoire après avoir été inculpé d'atteinte à l'unité nationale et d'incitation à la violence. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses avocats. Fondateur de l'Union démocratique et sociale, UDS non autorisée, M. Tabou, 46 ans, avait été incarcéré une première fois le 12 septembre après avoir été inculpé d'atteinte au moral de l'armée.
Au Maroc, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés hier devant le Parlement à Rabat pour demander la libération immédiate de la journaliste Hajar Raissouni, condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et sexe hors mariage. Le point avec Michel Joseph.
La petite foule de féministes et défenseurs de droits humains a dénoncé devant le Parlement une justice aux ordres. Lundi, une jeune journaliste du quotidien arabophone Akhbar Al-Yaoum a été condamnée, ainsi que son fiancé, son gynécologue, un anesthésiste et une secrétaire médicale. Hajar Raissouni dénonce un procès politique, assurant depuis le début avoir été traitée pour une hémorragie interne. Son gynécologue l'a confirmé devant le tribunal. Ses avocats estiment avoir démontré, contre expertise à l'appui, que l'affaire ne repose sur aucune preuve et compte faire appel. Un manifeste intitulé « Hors la loi », publié le 23 septembre pour dénoncer des lois obsolètes, n'a recueilli que 8 400 signatures. En 2018, la justice marocaine a poursuivi plus de 14 500 personnes pour débauche, 3 000 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 personnes pour avortement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, le président américain Donald Trump, sous la menace d'une procédure de destitution, a laissé éclater sa colère et sa frustration hier en s'en prenant à Joe Biden, son possible adversaire démocrate en 2020, aux médias qualifiés de corrompus et à certains élus démocrates accusés de trahison. Le point avec Jean-Roger Bion.
Déterminé à maintenir la pression, les démocrates du Congrès ont menacé mercredi de forcer la Maison-Blanche à leur fournir des documents qu'ils réclament dans le cadre de l'affaire ukrainienne. En réponse, le président Trump a dit que M. Biden et son fils sont de vrais escrocs. Très agressif, M. Trump a largement esquivé les questions des journalistes sur le fond du dossier, c'est-à-dire la demande faite par téléphone à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur les activités du démocrate Joe Biden et de son fils Hunter. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et l'avocat personnel du président Rudy Giuliani, au cœur de ce dossier, refusent le calendrier fixé par les élus démocrates du Congrès. Interrogé sur cette affaire lors d'une conférence de presse à Rome, le secrétaire d'État, qui a lui-même fait l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès, a laissé planer le doute sur les suites qu'il donnerait à leur demande de documents. Au Capitole, siège du Congrès, l'inspecteur général du département d'État, Steve Linick, a, lors d'une réunion qu'il avait lui-même demandée en urgence, présenté des documents liés à l'affaire ukrainienne. Il a notamment partagé le contenu d'une enveloppe siglée Maison-Blanche, renfermant de fausses informations et théories du complot sur Joe Biden et l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch.
Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils vont frapper 7,5 milliards de dollars de produits européens de tarifs douaniers punitifs. Quelques heures seulement après avoir remporté une grande victoire à l'OMC dans l'affaire des subventions à Airbus. Ces taxes douanières, qui seront imposées à partir du 18 octobre, risquent, dit-on, d'accroître les tensions commerciales entre Bruxelles et Washington.
En Irak, forces de l'ordre et manifestants se faisaient face hier soir dans le centre de Bagdad, où un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre, après 2 journées de contestation qui ont fait 9 morts et des centaines de blessés. Des milliers d'Irakiens ont défilé mercredi pour le second jour consécutif pour protester contre la corruption du pouvoir, le chômage et la déliquescence des services publics. Eric Manirakidza.
Des manifestations ont continué à Bagdad, Nasiriya, à Bassora et dans la ville sainte chiite de Najaf. Des milliers d'Irakiens ont manifesté pour le second jour consécutif contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics. Les forces anti-émeutes ont de nouveau tiré à balles réelles. À Bagdad, des manifestants ont brûlé des pneus, coupant des axes routiers importants. La zone verte où siègent les institutions et l'ambassade américaine a été de nouveau fermée hier soir. La place Tahrir, épicentre des manifestations, est séparée de la zone verte par un seul pont sur le Tigre. En 2016, les manifestants avaient forcé l'entrée de cette zone hyper protégée à l'appel de l'influent leader chiite Muqtada Sadr. Ce dernier a appelé ses partisans à des sit-ins pacifiques et à une grève générale aujourd'hui, faisant craindre des débordements et l'ONU appelle à la retenue.
Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, entame ce jeudi une visite de 2 jours à Cuba. L'île fait actuellement face à une pénurie de carburant en raison des sanctions américaines contre des navires transportant du pétrole du Venezuela. Cuba a donc cruellement besoin du soutien politique et économique de ses alliés, la Russie et la Chine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Ghana vendra son cacao à 1 528 $ la tonne pour la récolte 2019-2020 contre 1 400 $ la saison dernière, soit une augmentation de 8,4%. Ce nouveau prix marque le début de la revalorisation de la filière cacao, dont le Ghana est le 2e producteur mondial derrière la Côte d'Ivoire. L'agence Bloomberg écrit qu'en 2019-2020, le Ghana devrait produire environ 872 000 tonnes de cacao contre 830 000 tonnes pour la campagne 2018-2019. Au Burkina Faso, le projet Nabanga a la capacité de produire 571 000 onces d'or à un coût global de 760 $ par once sur une durée de vie de 8 ans, selon une étude de faisabilité de la compagnie canadienne Semafo publiée par l'agence Ecofin. La phase de production coûtera 84 millions de dollars, récupérable au bout de plus de 4 ans. Le projet a une valeur actuelle nette après impôt estimée à 100 millions de dollars et un taux de rentabilité interne de 22,6%. Semafo exploite déjà les projets aurifères Mana et Bungu au Burkina Faso. Pour terminer, en Tunisie, le gisement de gaz naturel de Nawara, qui a commencé sa production il y a 2 mois, va presque doubler la production nationale de gaz à 65 000 barils d'équivalent pétrole par jour. Ce gisement est un projet qui appartient conjointement à l'OMV autrichien et à la Société tunisienne de pétrole ETAP.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début des quarts de finale de la Coupe UFOA ce soir.
Oui, le pays hôte, le Sénégal, facile vainqueur de la Guinée-Bissau en ouverture, fera face au Bénin qui a sorti la Guinée. Le Burkina Faso et le Ghana se croisent encore. Déjà vainqueur en éliminatoire du CHAN 2020, les deux équipes se disputent les quarts de finale de cette Coupe UFOA. Le Togo tombait du Nigeria à rendez-vous avec la Côte d'Ivoire, vainqueur du Cap-Vert. Enfin, le dernier quart opposera la Sierra Leone au Mali. Sur la voie de la consolation, les éliminés du premier tour seront aux prises, à suivre entre autres Guinée-Bissau, Guinée, Mauritanie-Gambie, Nigeria-Cap-Vert et Libéria-Niger.
Les différents groupes de la CAN des moins de 23 ans sont connus.
Le tirage au sort a eu lieu hier et les 8 équipes qui ont composté leur billet pour la phase finale sont fixées sur leur sort. De belles affiches en perspective pour la 3e édition de ce tournoi continental, surtout dans la poule A composée du pays organisateur l'Égypte, le Mali, le Ghana et le Cameroun. Le groupe B est partagé par le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Zambie. La CAN des moins de 23 ans va se dérouler du 8 au 22 novembre prochain au pays des Pharaons. Les 3 premières équipes vont représenter le continent aux Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Europa League ce soir.
Incapable de gagner en Premier League, Manchester United compte sur la Ligue Europa pour retrouver le moral. Mais le déplacement ce soir au pays Bâche Alkmaar ne s'annonce pas de tout repos. Pour la 2e journée, les Red Devils sont 10e de Premier League à 12 points du leader Liverpool et avec seulement 2 victoires en poche en 7 matchs. Parmi les autres affiches de cette journée, le FC Séville devrait dérouler contre Nicosie, tout comme Arsenal contre le Standard de Liège.
Élimination surprise de Michael Norman aux 400 mètres.
Grand favori du 400 mètres, l'Américain a été éliminé en demi-finale à Doha, terminant 7e avec un chrono de 45 secondes 94. Visiblement diminué, Michael Norman était devenu le 4e performeur de tous les temps sur la distance en avril, en courant 43 secondes 45 à Torrance en Californie, ici aux États-Unis donc. C'est le Bahaméen Steven Gardiner qui a réalisé le meilleur temps des demi-finales, 44 secondes 13, une épreuve amputée de son champion du monde en titre, le Sud-Africain Wade Van Niekerk, toujours pas remis d'une grave blessure survenue en octobre 2017. De son côté, grande favorite, la Britannique Dina Hacher-Smith a survolé la finale du 200 mètres en signant un nouveau record de Grande-Bretagne en 21 secondes 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Niamey, au Niger, tenu d'un forum axé sur le respect de la limitation des mandats présidentiels en Afrique, l'occasion pour le président nigérien Issoufou Mahamadou de réaffirmer son engagement à quitter le pouvoir en 2021 à la fin de ses deux mandats. Le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
La rencontre de Niamey a une symbolique. Elle se tient dans un pays où le président est en fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel, alors qu'ailleurs les citoyens s'interrogent encore sur les intentions de leur chef d'État qui se trouve dans la même situation. Au Niger, Issoufou Mahamadou a clairement dit et depuis longtemps qu'il s'en ira. Il l'a réitéré à l'ouverture du forum mercredi.
Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. La respiration démocratique favorise la stabilité des institutions. Par ailleurs, je reste convaincu que la stabilité des institutions réside dans leur légitimité et leur légitimité résulte des élections libres et transparentes. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ce sera ma plus belle réalisation. Ça sera une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance.
Nicéphore Soglo, ancien président béninois, présent au forum avec quatre autres présidents ayant quitté démocratiquement le pouvoir dans leur pays, espère beaucoup de ce forum, notamment pour la sous-région ouest-africaine.
Malheureusement, dans les États de la CEDEAO et de l'Union africaine, cette thématique suscite encore des soulèvements au sein des États. C'est pourquoi nous espérons et nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif, tels que stipulés dans les constitutions des différents pays africains. Moi, je suis optimiste. Nous allons vers la terre promise.
La terre promise, c'est aussi vers elle que le National Democratic Institute veut conduire les États africains à travers cette initiative. Christopher Fuminio, directeur Afrique de la structure.
Le sommet est le résultat d'une longue réflexion enrichie par les constats du NDI sur le terrain pendant les trois dernières décennies et qui demande que les pays dans lesquels les constitutions sont respectées par les leaders politiques, les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits.
Le forum va durer trois jours au cours desquels experts de la gouvernance démocratique et du droit constitutionnel, hommes politiques et acteurs de la société civile échangent pour trouver des réponses aux multiples questions que pose la problématique. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, poursuite à Yaoundé du grand dialogue national destiné à résoudre la crise qui ensanglante le nord-ouest et le sud-ouest anglophone. Ce dialogue a été convoqué en début de semaine par le président Paul Biya. Des personnalités politiques en ont profité pour aborder par communiqué ou sur les réseaux sociaux des questions sur la forme de l'État, sujet exclu par le pouvoir. L'opposant Akere Muna, anglophone et avocat de renom, a décidé de claquer la porte des pourparlers dès lundi. De Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Alice Sadio, la présidente nationale de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, ne se fait plus d'illusions sur le grand dialogue national. Pour elle, les travaux sont mal dirigés par le Premier ministre. C'est d'ailleurs la principale raison qui l'a poussée à claquer la porte dès le premier jour.
Nous nous sommes rendus compte que M. le Premier ministre avait arrêté tout de manière unilatérale. Lui qui est par ailleurs militant du RDPC dont on connaît la thèse relativement à cette crise anglophone. Nous nous sommes sentis un peu à l'étroit et nous n'avons pas jugé nécessaire de continuer.
Quant à l'avocat international Akeremuna, responsable du mouvement NAO, il a annoncé dans un communiqué mardi soir la suspension de sa participation au Grand Dialogue National. Mais rencontré par VOA Afrique, il a opté pour un départ définitif de ses assises.
Je leur demandais si on a même suivi les instructions du président de la République. Il a dit que ça concerne le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et le problème brûlant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est simple. Sécession ou fédération. Alors comment est-ce qu'on négocie cela? Et je pensais qu'on allait partir de la renforcer nous autres qui ne sommes plus de fédération, quand tout est joué d'avance, on m'a même donné la liste de ceux qui allaient intervenir avant que les gens entrent en salle. Donc je me suis dit, bon, que je sois là ou je ne sois pas là, ça ne change rien, bon, je suis parti.
Célestin Bitigui est le chef de file du PAL, le parti de l'Alliance libérale, une formation politique alliée au RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Mais Célestin Bitigui a décidé de se mettre en retrait temporairement de l'initiative du président Paul Biya et fustige la méthodologie adoptée pour discuter des questions cruciales sur l'avenir du Cameroun.
J'ai lancé une alerte, je me prépare à repartir aux travaux, à exiger du Premier ministre que non seulement je voudrais prendre la parole, mais également l'inviter à donner la parole à tous les autres participants. Et que c'est à partir de là que nous saisirons quels sont les sujets les plus importants.
En réaction aux défections de certains participants au Grand Dialogue National, le secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir, Grégoire Wona, a regretté une attitude politicienne. Que les politiciens camerounais qui croyaient pouvoir prendre le Grand Dialogue National en otage pour leurs actions déclarent comme Mme Sadio, président de l'AFP et ses alliés, nous laissent travailler tranquillement pour la paix, a écrit M. Wona sur son compte Facebook. Pour le politiste Aristide Modo, la situation actuelle pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité du Grand Dialogue National.
Ces défections ne sont pas de nature à rassurer la communauté nationale et internationale.
400 personnes sont réunies à Yaoundé depuis lundi. Elles sont réparties en 8 commissions et sont chargées de proposer des solutions de sortie de crise en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya a été lancé lundi à Yaoundé. L'objectif est de tenter de mettre un terme au conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun depuis 2 ans. Toutefois, ce dialogue se tient sans les principaux leaders séparatistes emprisonnés. Le dialogue national pourra-t-il aboutir à une décrispation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Quel rôle pour la société civile, la classe politique et l'Église dans le règlement du conflit? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Dans le centre du Mali, les attaques menées par des djihadistes contre 2 camps militaires à Boulkessi et Mondoro près du Burkina Faso ont coûté la vie à au moins 25 soldats alors que 78 autres sont portés disparus. Et le 29 août dernier au Burkina, 26 soldats ont été tués à Koudougou dans une attaque également attribuée à des djihadistes. Quels sont les groupes extrémistes islamistes les plus actifs dans cette région? Idriss Fall s'est entretenu avec Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité à Bamako.
Oui, ces groupes agissent dans la bande frontalière Mali-Burkina et ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est cette dangereuse connexion qu'on observe entre Ansarou Islam, auquel groupe a été attribué une attaque contre le détachement de l'armée burkinabée le 29 août, et également la Katiba Machina qui opère dans le centre du Mali, dans la zone de Boulkessi et de Mondoro.
Mais qu'est-ce qui dirige cette Katiba?
La Katiba Machina est dirigée par Amadou Koufa. Il y a une brigade au sein de cette Katiba qui est appelée Brigade Ferment, qui opère sous l'égide de Amadou Koufa, le leader de cette Katiba, qui lui appartient au grand groupe de soutien à l'islam et aux musulmans créé depuis mars 2017 et qui regroupe non seulement Ansar Dil, dirigé par Yad Agali, mais également la Katiba Massina, Al-Mourabitoun et d'autres groupes extrémistes violents évoluant dans la zone. L'autre groupe qui agit du côté du Burkina et qui sera en connexion aujourd'hui avec la Katiba Massina dans le centre du Mali, c'est Ansarou Islam, longtemps dirigé par Malam Ibrahim Diko, avant d'être pris par son frère cadet Jafar Diko après que Malama ait été tué par une opération militaire.
Jafar, il a une expérience militaire?
Jafar, il avait longtemps aux côtés de Malam Diko travaillé dans le centre du Mali. Et depuis 2012, quand ils étaient en connexion avec le Moujaou à l'époque, vers la zone de Douenza. Puis après, très très longtemps, ils se sont retirés dans une forêt qui se trouve dans la zone de Boultessi, un peu au sud de la localité de Ombori. Il a longtemps bénéficié certainement du renforcement de capacités d'un point de vue militaire et ses différents rapports qu'il a eu non seulement avec le Moujaou, mais plus tard également avec Ansar Dine.
Abou al-Sahrawi, dont on dit que lui aussi il opère plutôt vers le Niger. Mais pourquoi on n'arrive pas à les arrêter ou les liquider?
C'est une grande question, mais au-delà de la liquidation de ses leaders, al-Sahrawi, donc qui incarne un peu l'État islamique dans le Grand Sahara, opérant au Niger, France, avec le Mali, notamment la région de Menaka, ou que ce soit Yaba Gali, paraissent aujourd'hui comme des figures emblématiques, mais qui paraissent également insaisissables. Mais au-delà de cette question, c'est l'engagement de milliers de personnes aujourd'hui à cette lutte armée et au discours qui est promu aujourd'hui par ces personnes-là. Donc même si on parvient à éliminer physiquement ces personnes qui sont des figures emblématiques de cette lutte armée, le plus important, c'est de faire en sorte que l'engagement des personnes, notamment de certains acteurs locaux dans ces groupes, puisse s'arrêter. Parce que c'est véritablement là l'enjeu depuis quelques années.
Joint à Bamako, Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, en nous excusant tout d'abord de l'incident technique de notre précédente édition, la Commission électorale nationale indépendante rassure, malgré le terrorisme et l'insécurité au Sahel, que les élections de 2020 se tiendront. La CENI s'est d'ailleurs rendue dans ces zones difficiles, Arbinda et Djibo, pour rassurer les habitants. Mais les populations, dont plusieurs déplacés, s'inquiètent de la situation sécuritaire et se demandent dans quelles conditions ces élections vont se tenir. Notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou s'est rendu au Sahel. Son reportage.
De grands moyens sont déployés. La voie terrestre étant dangereuse, minée souvent par des engins explosifs, le président de la commission électorale a atterri à Arbinda, plus de 360 km de la capitale dans le Sahel, à bord d'un hélicoptère militaire. Il a rendez-vous avec les locaux. La peine, la douleur, l'inquiétude se lisent sur les visages. Ici, on est sur ses gardes. Le danger est permanent. Cela fait des mois que la mairie de Arbinda n'a plus rouvert. Le maire a fui, la plupart des conseillers aussi. C'est donc ici qu'a lieu la rencontre. Un dispositif impressionnant d'hommes de sécurité est posé. Le président de la CENI est venu rassurer sur la tenue des élections. Le maire de Arbinda, se sentant menacé, a fui et vit à Ouagadougou depuis des mois. Il est revenu avec l'équipe de la commission électorale.
J'ai quitté la commune il y a 3 à 5 mois de cela.
Bourema Ouirem.
Je reviens aujourd'hui avec le président de la CENI pour lancer cette opération. C'est un sentiment de joie. C'est vrai, nous sommes dans des difficultés, mais nous devons relever les défis.
Après Arbinda, cap sur Djibo, principale ville du Soum, toujours dans le Sahel. Djibo est calme. On compte par milliers le nombre de personnes ayant fui les menaces terroristes pour se retrouver ici. Parler d'élections maintenant inquiète les populations.
Nous sommes très inquiets. Parce que comment vont se dérouler les élections, ce sera nos inquiétudes.
Oumarou Diko est le maire de Djibo.
Nous avons des centaines de milliers de déplacés. Et en plus de ces déplacés-là, il y en a qui sont restés aussi dans les villages qui sont inaccessibles. Parce que les villages ont été vidés. Donc notre souhait est que si le gouvernement pouvait encore nous aider à regagner nos communes, regagner nos villages avant ces élections.
Absatou Amidou est la coordonnatrice des femmes du Soum.
Pour des femmes et des jeunes qui ont fui sans bagage ni rien, ce n'est pas évident qu'ils se retrouvent avec des documents pour les votes. Comment voter? Quelle est la conduite à tenir? Quelles sont les stratégies?
Le président de la CENI estime qu'il faut tenir les élections ici.
Le continuum des droits du Sahel doit être maintenu.
Newton Ahmed Barry.
Il faut que les votes se passent pour que les pouvoirs publics et les pouvoirs élus au niveau du Sahel puissent se perpétrer pour permettre de mieux représenter les populations. Et donc, autrement, le Sahel pourrait être une région sinistrée du point de vue des droits démocratiques, ce qui n'est pas acceptable.
Selon la commission électorale, 10 millions d'électeurs, dont 6 millions de femmes, sont inscrits sur le fichier électoral. Avec des centaines de milliers de déplacés que connaît le pays, l'organisation de ces élections de 2020 s'annonce difficile. Lamine Traoré, Arbinda Ejibo, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.